Elles sont des femmes, sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure, et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celles qu'on leur a assignées à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux.
Je suis Oubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Professeure d'histoire, titulaire d'un PhD en genre, citoyenneté et bonne gouvernance, ancienne vice-présidente du Sénat, première femme leader de parti au Sénégal, conseillère à la présidence en approche genre, ancienne membre du RND de Cheikh Diop, elle rejoint par la suite le parti créé par le professeur Ibader Cham et occupe les fonctions de présidente nationale des femmes. Ancienne membre du COSEF, membre de l'Observatoire national de la parité et l'Institut panafricain de stratégie, la secrétaire générale du parti pour la renaissance africaine reconnue officiellement le 5 juin 2000, a mis les femmes et les jeunes au devant de son combat tout au long de sa présence sur la scène politique. Je suis heureuse d'être en face de vous aujourd'hui, Madame Lee. C'est l'occasion pour moi de remercier ma mère qui, depuis le début, alimente en continu ma liste de femmes. C'est par son entremise que je suis en face de vous aujourd'hui, parce qu'elle a facilité cette rencontre-là. Maryam Wally, bienvenue dans Conversation féminine.
Merci ma fille.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et c'est un honneur. Vu la liste extraordinaire des femmes inspirante que vous avez pu contacter. Alors, ça, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette liste.
Mais tout le plaisir est pour moi, sincèrement, tout le plaisir est pour moi. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens diront, on vous a perdu de vue, on ne vous voit plus réellement, mais c'est toujours frais dans ma tête, en tout cas moi, de cette participation, du fait que vous ayez, que vous étiez et que vous êtes la première femme encore à avoir mis en place son parti et à avoir eu des ambitions présidentielles. D'où vous vient cette ambition-là? Comment elle s'est construite?
Voilà, elle s'est construite au fil des années. Parce que je dois dire que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé, j'avais 16 ans.
La politique?
La politique, oui. Disons. Oui. J'ai adhéré comme ça de loin au Parti pour l'indépendance africaine, de loin, sans avoir une carte, sans être inscrite sur leur liste, parce que simplement j'habitais sur l'avenue qui est devenue les Allées du Centenaire, l'avenue des Centenaires, ça s'appelait maintenant Général de Gaulle. Oui. Alors j'habitais là et il y avait le champ de course qui était à côté, qui était sur la rue. Et le 14 juillet était bien fêté par les Français, parce que c'est la fête de la France. Et le Parti africain pour l'indépendance manifestait. Ils étaient là et on leur lançait des grenades, on les battait. Et j'ai été tellement survoltée de voir un policier qui, plusieurs policiers sur un Sénégalais. Je revois encore son raptin rebroussé et qui était sous la botte des policiers. Et j'ai rué dans les, vers les policiers, les gens m'ont retenu. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis revenue chez moi en pleurant et tout. Et on m'a expliqué. On m'a expliqué que, voilà, c'est des gens qui veulent l'indépendance, avec les Français veulent rester, nous dominer. Voilà.
Alors que les Français ne veulent pas partir.
Ils ne veulent pas partir. D'accord. Voilà, c'est parti comme ça. Et je me suis intéressée au fil du temps. D'autant plus que j'étais, je suis née dans les années 50, début 50. Et j'ai donc j'ai fait mes écoles, mon école primaire, pendant la colonisation. Donc presque toute mon année scolaire primaire. Tout le cycle primaire. Vous allez avoir des problèmes parce que je vécu plus longtemps aux États-Unis.
Il n'y a aucun souci.
J'ai des problèmes avec l'anglais. Il m'arrive de mettre des mots anglais.
Ça me va. Il n'y a aucun souci.
Non, pas de mettre des mots anglais, mais je réfléchis avant de parler en français maintenant. Je parle mieux le polar, le wolof et l'anglais.
Je
chahuter les français, mais non, c'est pas vrai. Je suis professeure en français pendant des années. Alors donc, c'est à partir de là, comme j'ai eu des leçons d'histoire, sur la Dior, sur Samori Touré, sur Omar Futur. Et on lui disait, tiens-toi bien, la Dior est un loi sanguinaire. Voilà ce que la colonisation, pour faire la différence entre les Français et le système colonial, le système colonial inculqué aux jeunes africains, en leur disant, vos chefs sont des sanguinaires qui ouvraient les ventres des femmes pour sortir les enfants, des trucs comme ça. Et comme je suis lué par le sang, par la dure, ça m'a étonné. Quand je suis arrivée, je dis à mes parents, comment se fait-il que sur ma mère, que sanguinaire, on me dit, c'est pas vrai. Vous voyez comment, petit à petit, je me suis intéressée. Et quand j'ai été au lycée, je suis entrée directement dans les grèves contre. Je disais à un de mes nécessaires, à mon père, puisque c'est le cousin de mon père, cher Baquet, et le femme, je disais, papa, maintenant, de moi, il y en a qui n'ont pas de bourse. Il y en a qui n'ont pas ou passent la journée, qui passent la journée dans la rue. Alors nous faisons la grève pour accueillir des bourses et tout ça. Donc j'ai dirigé les grèves.
Oui.
Très tôt, j'ai dirigé des grèves.
Oui.
Au lycée, j'étais à la tête des grèves.
Et vous étiez à quel lycée?
J'ai fait ce qui est devenu le lycée d'application par la suite.
C'est de nouveau Tal.
C'est de nouveau. Mais de 63 à moi, je quittais, c'était le collège d'application à l'école normale supérieure.
Oui, tout à fait.
Donc après le BFM, on nous orientait vers les lycées.
Vers
donc j'ai fait le cycle la cinquième à la troisième. Après, on nous a affectés à. J'étais à Kennedy.
Kennedy. Oui, ancienne Canadienne.
Ancienne Canadienne. Et c'est là que j'ai dérivé toutes les crèmes.
Oui.
Jusqu'à ce qu'on m'exclue.
Ah oui. Ah oui. En quelle classe vous avez été? Vous avez été exclu?
J'étais exclu en seconde.
Oui.
Yeah, en seconde.
Et vous avez fait quoi? Comment ça se fait? Quand vous rentrez chez vous, vous êtes exclu dans ces temps-là. Comment vous faites?
Ben, les parents ne sont pas contents, bien sûr.
Bien évidemment.
Sauf que j'ai des oncles qui me soutenaient, qui disaient bravo. Tu as l'héritière de tes parents qui ont toujours lutté, de tes grands-parents qui ont toujours lutté contre cette colonisation et tout. Mais toujours est-il que j'étais exclue. Il fallait trouver la place. J'ai fait Saint-Michel, mes parents payaient. J'ai fait des écoles privées. Et là aussi, j'étais dans les réunions. Pour parler de Marie-Angélique Savané, j'étais en contact avec elle et son mari. Et j'y suis entrée dans les mouvements de gauche, carrément.
Oui, et c'est intéressant. Parce qu'avec Marie-Angélique Savané, nous avons abordé ce sujet-là sur les mouvements de gauche. Comment vous les avez rencontrés, intégrés cette partie-là, en étant lycéenne?
Voilà. Donc moi, en tant que jeune de famille privilégiée, je dois dire, donc, on habitait au point E, nos fréquentations, c'était donc le quartier, comment ça s'appelle, Fan Résidence, etc., etc. Et c'était, il faut dire que le mouvement de gauche est parti des familles aisées.
Oui.
Les Blondins d'un côté, les Bas de l'autre, les Savanais, tout, c'était des familles aisées. Alors donc, mes anciens amis, les copains et tout ça, ont commencé à militer, revenant de France, ont commencé à militer dans la gauche. Alors, donc, j'étais très liée à Omar Blondin et tout. Et petit à petit, je suis entrée dans le mouvement par le canal de naissance, quelqu'un qui s'appelle Noum Camara, qui était très lié à Omar Blondin Diop et qui m'a mis en relation avec ce mouvement. Et c'est comme ça que j'ai intégré une cellule d'études et de formation avec Marie-Angélique Savané, avec Deso, avec Binta Sen, avec Anta Diouf. Hein, c'était des grandes dames qui étaient un peu plus âgées que moi, qui sont restées encore à militer, à travailler pour que le peuple africain et les femmes avancent. Et c'est là où on a milité aussi dans les structures où on étudiait chaque samedi, rapport entre hommes et femmes.
Oui.
On faisait le tour des quartiers avec Marie-Angélique Savané pour étudier quels sont les rapports véritables entre les hommes et les femmes, quelles sont les différentes expériences que le monde a eues par rapport à ces rapports hommes-femmes. On étudiait ce qui s'est passé avec la révolution chinoise, qu'est-ce qui s'est passé en Union soviétique, qu'est-ce qui se passe réellement en France et ailleurs, avec les Gisèle Halimi, le MLH et tout ça. On a étudié qu'est-ce que nous étions, nous. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que les femmes étaient?
Je souris. Comment vous étiez accueillis dans les quartiers quand vous allez étudier les rapports entre hommes et femmes?
Tu sais, on les caressait dans le sens des poils.
Oui.
On venait leur dire, on vient vous aider. Et on allait les aider. On avait une pratique de masse, comme on dit, une ligne de masse. On appelait ça ligne de masse. On s'habillait comme eux, on priait comme eux, on parlait comme eux. Et on venait dire, quand ils avaient des problèmes, on était là. Il y y avait beaucoup de quartiers populaires. Mm-hmm. Dakar a changé. Hein?
Oui.
Il y avait des quartiers populaires, Fas, mm-hmm. Colobane, Fitmi, etc. On est allé dans ça, on allait travailler. Moi, je suis allée travailler dans une usine, je me suis cachée, j'ai dit à mon père mm-hmm. que je suivais des cours de je ne sais plus quoi. Mm-hmm. Et il m'a laissé, je partais du matin jusqu'à une certaine heure, et je suis allée me faire journalière mm-hmm. dans une usine de décortiquage de, mm-hmm. de saules et comment ça s'appelle, et crevettes. Pour te dire qu'on allait intégrer, comme on disait, d'accord. les masses. Et eux, on les faisait prêts. On rentrait dans chaque maison pour dire, venez, on va vous apprendre à lire, mm-hmm. à écrire. Mm-hmm. Et c'est nous qui balayons le quartier, c'est nous qui, oui. qui faisions tout. Oui. On venait les cueillir, à la limite leur demander gentiment de venir, les inviter gracieusement à venir suivre nos cours, on mm-hmm. disait. Et à partir de là, on avait des amis qui nous aimaient bien, et mm-hmm. on discutait. Et ils aimaient bien discuter. Mm-hmm. C'est petit à petit que la chose s'est agrandie, a donné, yé-oui,
Exactement, oui, oui. C'est impressionnant d'avoir mm-hmm. ce retour-là et d'avoir cette pratique-là. Mm-hmm. Parce que vous avez accepté, en fait, mm-hmm. de faire de l'immersion mm-hmm. quand vous vouliez atteindre vos cibles, de c'est pouvoir ça. Leur parler ouais. de la manière la plus adéquate pour qu'ils soient en mesure de pouvoir recevoir votre message. Mm-hmm. Et oui, c'est intéressant. Mm-hmm. Et ça me permet de je me pose une question. Mm-hmm. Vous êtes Alpoulard, yeah. vous êtes né à Kaskas, yeah. que vous avez quitté très tôt yeah. pour venir à Dakar. Mm-hmm. On a dans l'imaginaire, mm-hmm. ou dans ce que nous voyons, mm-hmm. des familles Alpoulard qui sont extrêmement strictes. Mm-hmm. Si vous êtes né dans cet environnement-là, avec ce côté très strict et conservateur des familles Alpoulard, comment vous avez fait cette place que vous vous êtes créée, comment vous l'avez fait?
Mais vous avez bien dit strict et conservateur.
Oui.
Alors strict et conservateur de quoi?
Exactement.
C'est ça le problème. Oui. Parce que la culture Poulard est une culture qui est très très favorable à la femme, contrairement oui. à ce que les gens pensent. Mm-hmm. Pour vous donner des exemples, c'est vrai qu'on se marie tôt, mm-hmm. c'est ce qu'on nous reproche. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a eu l'excision à un moment, c'est ce que les gens reprochent. Mm-hmm. Mais, quel que soit X, mm-hmm. c'était pour protéger, disent-ils. Et si on va jusqu'au bout, on verra que mm-hmm. c'est ça l'objectif. Mm-hmm. Okay? C'est pour être sur la Sirat al-Mustaqim mm-hmm. de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils font tout ça. Donc, il y a une culture. Mm-hmm. Vous savez, le Fouta a fait sa révolution très tôt, mm-hmm. en 1700. Et qui a abouti en 1776 mm-hmm. et qui a mis en place l'état théocratique du Fouta qui part de Dagana mm-hmm. jusqu'à Bakel. Mm-hmm. Et là, ils ont respecté les préceptes de l'islam. Et qu'est-ce que l'islam dit pour les femmes? C'est ce qu'ils font. Mm-hmm. Ok? Alors donc, les gens pensent que les femmes étaient réprimées. Non. Mm-hmm. Les femmes, tant qu'elles étaient. Pour donner un exemple, quand tu te maries, mm-hmm. Tu peux le donner à quelqu'un qui allait ton enfant. Mm-hmm. Les femmes ne sont pas obligées. Mm-hmm. Les femmes ont des travailleurs qui travaillent pour eux. Mm-hmm. Elles ne sont pas épousées pour travailler forcément. En tout cas, dans nos familles à nous. Mm-hmm. Okay? Et quand il a assez de lait pour nourrir son enfant, on lui dit il faut que le mari augmente la dot. Beidou de Tengen. Quand elle accouche, elle a droit à chaque accouchement à 2 mois de repos où elle se retire chez ses parents. Mm-hmm. Au moment de la ménopause, elle devient un notable, une notable. On lui construit d'ailleurs un lit, un strapontage, j'allais dire, à la cour, et elle s'assoit et participe à toutes les décisions du village directement. Elle ne se voile même plus. Elle a des tresses spéciales, très jolies, bien décorées. Et elle met une sorte de tulle sur le, pour montrer que maintenant, elle est libre de ça. Parce que la femme de l'autre ne doit pas s'exposer aux autres. Mais une fois qu'elle parce que la femme, une fois qu'elle a fait ses enfants, elle est libre. Voilà, pour te dire que le Fouta est comme ça. Et on a eu beaucoup de femmes qui ont participé aux luttes. Comme toutes les femmes de l'islam et comme toutes les femmes du monde d'ailleurs, qui participent à l'ombre, au livre de libération et tout ça. Donc j'ai eu, moi, je n'ai pas été élevée au Fouta, comme tu dis. J'ai été élevée à Dakar. J'ai ma tante qui est Wolof, de père, mais sa mère est Wan comme mon père, et son mari est de Saint-Louis comme vous. Alors, donc j'ai une culture saint-louisienne. Alors, mais je connaissais pas, je pensais, au moment où je lançais ma candidature, je pensais comme tout le monde, hé, les tricolores là, ils sont, moi je disais les tricolores comme vous, hein, comme tous les autres peuples du Sénégal ou d'Afrique, je traitais mon peuple comme les tricolores, les gens extrémistes, difficiles et tout ça. Mais à ma grande surprise, agréable surprise, j'ai été tellement soutenue par les marabouts. Des marabouts, hein, des imams et tout, en disant, c'est de Wan, c'est bien. Tu es sur la droite ligne des gens qui ont toujours lutté pour la libération, pour l'émancipation et pour le progrès. Donc, ils m'ont offert des livres sur l'islam, c'est vrai souvent, qui sont venus à mes réunions avec leur turban et tout, pour assister à mes conférences, qui a donné le nom de tous ses frères et sœurs et parents, pour qu'ils adhèrent à mon parti politique. Donc, il n'y a pas eu de problème. Je disais à quelqu'un qui parlait de Awali, Awbakarli, quand elle a sorti son livre, on lui a posé presque la même question en disant, comment une fille, une petite fille de Cheikh Omar Fouta, ose comme ça paraître aux yeux du monde? Et moi, je répondais à sa place, avant qu'elle ne prenne la parole, pour dire, c'est parce que vous connaissez très mal Cheikh Omar Fouta. Cheikh Omar Fouta, radiyallahu ta'ala anhu, à chaque fois qu'il transmettait son savoir à quelqu'un, il passait par une femme, pour transmettre ou pour révéler El-Hajj Malixi, il passait par qui? Par la mère de El Hadj Malixi, Fawad Welé, qui a envoyé son frère. L'histoire montre bien que c'est la femme qui a envoyé son frère pour aller vers Cheikh Omar Fouta, et Cheikh Omar lui a donné à sa soeur la tarée stidiale. Il a fait la même chose avec la mère de Borom Touba, Mamdiar Obusso. Il lui a dit, voilà, vous allez avoir un garçon, un enfant qui sera connu. Donc il transmet, il parle aux femmes. Il met les femmes en valeur. C'est l'importance de la mère et de la femme. Voilà.
Et si je reprécise, est-ce que vous avez une place qui vous était destinée? Quand vous êtes né, quand on vous a amené à Dakar, ce n'est pas fortuit qu'on vous ait amené quelque part, peut-être, pour que vous puissiez bénéficier d'une certaine éducation. Est-ce qu'il y avait une place qui vous était destinée à la fin, à part peut-être le fait d'être épouse, mère qu'on attend, mais est-ce qu'il y avait des études qu'on attendait que vous fassiez, ou un métier, ou qu'est-ce qui était attendu de vous? Quelle place vous était destinée?
C'est une bonne question. Je dois dire que je n'ai été pas confiée comme ça gratuitement.
Oui, bien sûr.
Je reviens au fait que chez la poulard, il y en a qui ne seront pas d'accord, qui seront fâchés, mais je le dis toujours, le mariage est fait pour du bonheur. En tout cas, dans les familles Wan. Et quand il y a quelque chose qui vous dérange, vous quittez. Donc, ma mère a divorcé très tôt. c'est vrai, j'avais 2 ans quand elle a divorcé avec son cousin. Parce que ça aussi, c'est une pratique. Il faut, on reviendra peut-être dessus.
Mais
parce
allez-y.
Que dès qu'on est, on vous destine à quelqu'un. On vous destine à quelqu'un. C'est une tradition.
En vous attachant une corde, on va dire, un chiffon.
On attache un bracelet.
Oui, exactement.
Un bracelet doré.
Exactement. Autour du poignet.
Le poignet pour dire, celui-là est destiné à Ibra ou à Mamadou ou à Bira. D'accord? Alors donc, les gens se marient comme ça, des mariages d'intérêt, j'allais dire, ou de raison. Mais une fois que ça ne marche pas, les gens se quittent de paisiblement, sans problème. Mm-hmm. Ils gardent les relations parce que c'est des cousins, etc. Donc ma mère a quitté, j'avais 2 ans, mm-hmm. mon grand frère avait 4 ans, mm-hmm. et mon père qui devait élever, il était chef de canton, je t'ai dit, mm-hmm. À Casca, mm-hmm. où je suis née, et mm-hmm. donc il devait élever ses enfants-là. Et c'est là où ma tante, mm-hmm. sa sœur, a tout fait mm-hmm. pour lui dire confie-moi cette fille, confie-moi cette fille. Et c'est là où mon père qui ne voulait pas lâcher, mm-hmm. il m'a confié à ma mère, mm-hmm. à ma tante. Mm-hmm. J'ai dit maman, oui. De toute façon, à ma badienne, c'est parce que c'est le mot Wolof. Mm-hmm. Et il ne m'a même pas confié à ma tante maternelle, sa soeur, mais à son mari, mm-hmm. qui était mm-hmm. un de ses frères, mm-hmm. de ses collègues. Sur tous les plans intellectuels, comme lui, travailleur comme lui, fonctionnaire de l'État français de l'époque, mm-hmm. Talib Tidiane comme lui, et tout. Il a dit expressément, Fatima, ma soeur, je ne te confie pas ma fille, je la confie à l'une Saloufan, mm-hmm. mon frère. Voilà, et c'est mon oncle était quelqu'un d'un grand intellectuel. Qui était d'ailleurs l'intendant de l'économie supérieure, mm-hmm. qui était le pire de France pendant la colonisation, le pire de la pension des retraités, mm-hmm. et bon, donc d'une lumière, je mm-hmm. dirais extraordinaire, qui avait un projet pour que tous ses enfants réussissent. Mm-hmm. Après, tous ses enfants ont réussi. Mm-hmm. Il y en a une qui était ministre, Khalifa Diallo, malheureusement, mm-hmm. qui est décédée. Mm-hmm. Il y en a qui est Tabafal, Khalifal et ingénieur agronome, elle mm-hmm. est dans Leader Femme, mm-hmm. L'association des femmes leaders, etc. Toute la famille a fait ça. Bon, donc, j'étais destinée aussi, comme tout le monde, à un autre homme. Mm-hmm. Mais très tôt, j'ai su négocier. Il mm-hmm. faut dire que j'ai négocié. J'ai négocié avec ces hommes-là, oui. avec le monsieur Nessan qui est décédé maintenant, qui est un cousin direct, mm-hmm. parce que sa mère est la sœur de mon père. J'ai pu négocier parce qu'on était des amis pour le dire, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Parce que j'ai déjà, à un moment où je devais devenir une épouse, j'étais déjà révolutionnaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors je ne pouvais pas épouser n'importe qui. C'est ça le problème. Et les gens comprenaient. Lui, oui. il a compris. Tout autour, les gens n'ont pas compris, se sont fâchés contre ma tante, mm-hmm. pensant qu'elle était à la base et tout. Mm-hmm. Se sont fâchés contre beaucoup de gens. Mais lui, il avait compris que mm-hmm. c'est vrai que si on se mariait, il allait avoir des problèmes parce que je sortais déjà quand je voulais. Mm-hmm. J'allais écrire des tracts, j'allais à des réunions et tout. Et mon père, mm-hmm. Saloufa, a été contraint, j'allais dire. Mais et comme il est souple, il nous a dit, je suis fière de vous. Mm-hmm. Vous savez quel jour il m'a dit ça ? Mm-hmm. Le jour où il m'a vu, il me dit qu'il était en face de moi. Je venais et lui, dans l'autre sens, mm-hmm. il dit il y avait les garçons devant lui mm-hmm. qui lui disaient il y a celle qui arrive, c'est un homme ou une femme ? Regardez mm-hmm. la façon avec laquelle je marche. On avait des jeans, des kickers, ouais, ouais. afro, mm-hmm. parce que c'était le Black Panthers Party à l'époque. Oui. On s'habillait et on marchait comme le Black Panthers Party en bondissant et mm-hmm. tout. Et puis, pareil que les jeunes de mon âge disaient, mais si c'est un garçon, il est trop beau. Mmh. Mais si c'est une fille, qui est-ce que parmi vous va la draguer? Mon père a dit, et quelqu'un le plus audacieux a dit, bon, je vais essayer. Mais j'ai dit, comme je marche straight ahead, mmh. j'ai dit, je marche tout droit. Mmh. Quand je suis arrivée, alors nous se sont dispersés. Et mon père a dit, bravo, maintenant j'ai confiance en toi. Les garçons de ton âge n'osent pas t'affronter.
Oui, oui, oui.
Vous voyez. Donc, j'ai bénéficié de tout ça. Mm-hmm. Alors, ce qui fait que, bon, au bout de combien d'années de militantisme, pour revenir à ma candidature, oui. au bout de 68, si je m'arrête là, j'allais mm-hmm. J'aurais pu monter de, mm-hmm. depuis l'agression des policiers sur les membres du PAI. Oui. Mais 68, mm-hmm. 69 mm-hmm. précisément, j'ai commencé à militer sérieusement dans les cellules oui. d'études et de réflexion mm-hmm. avec Landing Savané, oui. le mari Jean-Luc Savané, comme j'ai dit
oui,
tout à l'heure.
Exactement.
Et on a milité là et après on a formé un mouvement mm-hmm. Clandestin. Mm-hmm. de gauche, qui s'appelle Mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste, mm-hmm. MJM.
Et vous vous cachiez ?
On se cachait, oui. on faisait des tracts, on a arrêté plein de gens pour ça.
Oui.
Parce qu'ils remontaient, quand les blondes ont brûlé le centre culturel français, mm-hmm. on était tous ensemble hein, dans mm-hmm. nos réunions, on préparait la venue contre la venue de Pompidou à Dakar, mm-hmm. on a fait tout ça, on mm-hmm. a écrit partout, on a dénoncé ces
partout.
Partout. honte. Oui. Et voilà, mais c'est vrai, on nous prenait au sérieux parce qu'il y en a qui sont morts pour ça.
Oui.
Il y en a qui ont perdu oui. leurs études. Oui. Il y en a qui ont perdu des membres.
Vous parlez de Omar Blondin
Diop. Omar Blondin Diop est mort. Alousène Cissé a été tué, décapité en tant que jeune étudiant qui a été incorporé par la force précise, c'est comme il y a 19, dont mon mari d'ailleurs, on ne se connaissait pas encore. Voilà, donc c'est là où on a continué jusqu'au moment où Cheikhanta Diop a créé son parti.
Exactement. Comment s'est fait cette rencontre?
Voilà, donc il y a eu Cheikhanta est très, c'est un savant et il est en bonne relation avec beaucoup de gens du peuple. Et c'est comme ça qu'une de ses relations est venue lui dire que Cheikhanta a décidé de rencontrer des jeunes qui sont prêts à mourir et qui sont, beaucoup sont morts d'ailleurs, pour la patrie. Lui, il veut faire la jonction entre l'ancienne génération qu'il représente et la jeunesse révolutionnaire et patriote. Et c'est comme ça qu'il nous a transmis le texte, le projet de statut, de règlement intérieur, tout ça. On a discuté pendant un an presque. Et c'est le 5 janvier 1976 qu'il a créé le RND, Rassemblement National Démocratique, dont j'étais membre fondateur. Oui. J'étais là au moment. Et c'était vraiment la grande joie de travailler avec ce pharaon de la culture. Et voilà.
C'est très beau de revisiter avec vous ces moments d'histoire, ces moments de vie. Parce que pour nous, ce sont des moments d'histoire, mais vous, c'est votre vécu. Ce sont des choses que vous avez vécues et que vous avez vu naître, que vous avez accompagné pendant un certain nombre d'années. J'ai l'habitude de dire, parce qu'il y a une question qu'on pose aux femmes et qu'on ne pose qu'aux femmes, je le dis tout le temps, et que moi qui me hérisse. Mais dans cette conversation, je la pose. C'est de dire aux femmes à chaque fois, comment vous avez pu allier engagement militant, travail et vie de famille et d'épouse?
Voilà, là, ça c'est une bonne question. La grande chance, c'est que nous, on ne se laissait pas épouser par n'importe qui.
Oui.
On était l'épouse de nos camarades. On épousait des gens qui avaient exactement les mêmes conceptions, d'ailleurs qui militaient dans la même structure que nous. C'était ça, c'est mon cas en tout cas. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours su que je ne pouvais pas me marier avec n'importe qui. Parce que c'était une forte conviction, je ne le faisais pas pour quoi que ce soit, je le faisais parce que c'était une conviction, il faut que le peuple se libère et que les injustices soient absolues. Alors donc, voilà, j'ai épousé M. Amadou Tidjali, qui était dans la même structure politique que moi, qui fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, des 49 qui étaient exclus par Senghor et incorporés dans l'armée de force et qui ont fait tout ça. Qui était donc, j'ai épousé et elle a porté ma libération, j'allais dire, j'allais dire, c'est vraiment ça. Parce qu'il arrive que mes maris, attention, c'est des gens de soude à ne pas... à ne pas faire. Parce que c'est comme ça que vous donnez de mauvaises habitudes aux hommes qui vont filmer ou pas vous asseoir. Ça veut dire. Donc, il était là, on se partageait tout. On se partageait tout, les dépenses, le travail à la maison, les enfants. Les enfants étaient même plus attachés à lui qu'à moi. Il arrivait, je dis, maman, papa, j'ai fini, viens me nettoyer, des trucs comme ça. Tu vois?
Oui. C'est rare en fait, c'est rare. Oui, C'est, oui, c'est relativement rare, oui, de partager la vie d'un homme aussi déconstruit. En, oui, fait, on utilise ce terme-là maintenant, aussi déconstruit, mm-hmm, qui ne considère pas que les tâches ménagères sont genrées.
Oui, 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 sont genrées.
Voilà, mm-hmm, et que vous voulez partager juste, et qui n'aide pas, il fait juste sa part.
Oui, oui, il fait sa part.
Oui,
il fait sa part. Il n'a rien qu'elle en fasse plus que moi. C'est vrai.
Oui,
il fait vraiment,
exactement,
sa part. Les, oui, enfants le reconnaissent à tout le que le papa, bon, vraiment, il a toujours été là pour nous.
Oui.
Il était prêt à me dire, va à la réunion, moi je reste, parce que les femmes doivent, mm-hmm, avancer plus rapidement que les hommes, parce que nous avons des acquis que vous n'avez pas.
Mm-hmm.
Des trucs comme ça, il m'a, mm-hmm, soutenu pour les études et tout, mm-hmm, vraiment. C'est une chance.
Oui.
Mais je dois dire que c'est jamais complet.
Mm-hmm.
Parce que la société est là pour diviser.
Oui.
La société est là. Il y a une voisine qui me dit toujours, Mariam, attention, les gens, c'est qu'ils disent à ton épouse, là, un jour il va se révolter.
Mm-hmm.
Mais parce que les gens viennent dire, Lou, tu es trop libéral, avant c'est toi qui fais ça.
Mm-hmm.
Et ça a commencé à flancher un peu,
mm-hmm,
parce que j'ai solide, ça a pas, j'ai dit bien, un tout petit peu, mm-hmm, changé un tout petit peu, quand mon garçon a grandi un peu, et, mm-hmm, que dans le quartier, on pouvait dire, c'est pas pour mes balais.
Oui.
C'est ton,
ouais,
père,
ton père qui
nettoie,
passe le balai, ton père qui nettoie.
Ton père qui nettoie.
Mm-hmm.
Ou de quelqu'un qui vient, qui nous aide à, prendre, à nettoyer le riz.
Mm-hmm.
Dis, ah, en Wolof, il a dû se travailler au
corps, oui,
vraiment,
oui,
dans,
oui,
le liguer.
Oui.
Mm-hmm. Et on m'a revenu, etc. Les gens sont là pour ça.
Mm-hmm.
C'est vrai.
Et c'est ça, pas facile, ça.
C'est pas facile. Et les hommes, quoi qu'on dise, ne changent pas totalement.
Parce on est d'accord.
Disent, ah, non, mais c'est ça. Quel que soit, il y a un moment où ils disent, ah,
c'est moi l'homme.
Bah, tu penses que je suis faible, c'est parce que je fais ça que tu penses que je peux tout te permettre,
mm-hmm,
alors qu'ils avaient tout permis.
Mm-hmm.
Alors, un moment, et ça, ça a un coût pour les femmes.
Oui,
car,
oui,
on le reçoit mal.
Oui.
Parce que le jour où tu diras chez moi, ou je ne suis pas ton égard, ou, mm-hmm, je suis ton. Alors là.
Le couple vacille.
Non, 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 ça, c'est révoltant.
Oui,
ça révolte des gens comme moi,
mm-hmm,
et ça peut créer quelques clashs, mm-hmm, momentanés.
Qu'il faut gérer.
Ouais,
que,
qu'il faut gérer.
Voilà. Que vous acceptez, que vous,
voilà,
choisissez,
oui,
que vous choisissez de gérer, de, oui, dépasser,
de dépasser,
de le faire ensemble,
yeah,
ou bien de dire, voilà, ça s'arrête là, nos chemins vont se séparer.
Voilà, c'est ça. C'est
et vrai. Vous avez fait le choix de travailler ça ensemble et de,
oui,
le traverser.
Il y a eu des clashs momentanés, pour être historienne, parce,
oui,
que je suis historienne, il y a,
oui,
eu des clashs momentanés, où carrément, je, oui, suis sortie de la maison, je, mm-hmm, suis allée habiter ailleurs,
mm-hmm,
et tout. Quelques temps, et puis à tous les coups, ça s'est réconcilié, parce que
c'est
les gens
bon,
la
maison, hein.
Et on l'a fait trop tard.
Mais je suis contente.
Regarde, en 1974,
oui,
c'est seulement dans les années 2000, c'est avec le parrainat que ça a commencé. Parce que là,
ça, c'est pas
leader.
Évident.
Ah.
C'est intéressant ce que vous êtes en train d'aborder. La partie que vous êtes en train d'aborder est super intéressante.
Oui.
Là, maintenant, vous êtes leader et la,
oui,
donne change.
Voilà, bah, la donne change.
Mm-hmm.
Maintenant que je suis leader carrément, c'est, mm-hmm, moi qui décide. Et quand j'ai créé le parrainat, je n'ai pas averti.
Mm-hmm.
C'est la première fois que je vais cavalier seul,
mm-hmm,
parce que c'est venu naturellement.
Mm-hmm.
C'est en 80, j'étais de
98.
98, voilà. Le 8 mars ou le 5 avril.
Oui.
98. Alors, j'étais pendant tout ce temps-là, on était dans le MJML ensemble. Et après.
Qui est le mouvement?
Mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste.
Voilà.
Mouvement des jeunes marxistes-léninistes.
Oui.
D'obéissance maoïste.
Oui. Les anciens maoïstes.
Maoïstes. Voilà. Et après, nous, on a intégré ensemble,
mm-hmm,
le RND.
Mm-hmm.
Et quand on est allé en France,
mm-hmm,
moi, j'ai plus milité au RND que lui, parce que lui, il avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Bon, et moi, j'ai participé à l'installation du RND à Paris.
Mm-hmm.
Donc, de 76 à 80.
Mm-hmm.
Je suis rentrée en 80. Quand je suis rentrée, je suis, six ans après, Gérard Diop est mort.
Oui.
OK. Gérard Diop est mort et moi, je me suis retirée plus ou moins.
Mm-hmm.
Je ne me suis pas retirée, mais j'ai eu moins de pratique.
Oui.
Parce que je commençais à entrer dans la vie productive, j'étais,
mm-hmm,
professeur.
Mm-hmm.
Vous avez des nouveaux enseignants sur l'histoire et la géographie.
Mm-hmm.
En Europe, tu fais une formation dans un domaine.
Mm-hmm.
Histoire. Moi, je suis historienne. Quand tu arrives au Sénégal, que tu dois enseigner au lycée, on te pose histoire et géographie.
Oui.
Et moi, j'avais même l'histoire, c'était l'histoire de France, et des trucs comme ça, mm-hmm, mais j'avais les données et,
mm-hmm,
les possibilités, la méthodologie pour, mm-hmm, connaître le reste. Donc, j'avais pas beaucoup de temps et j'avais déjà deux, trois enfants.
Oui.
Je commençais à avoir deux enfants, trois,
oui,
trois enfants.
Mm-hmm.
Alors, ce qui fait que j'étais moins occupée à faire la politique, c'est,
mm-hmm,
vrai. Mais ce qui fait que je me suis occupée plus de mes enfants jusqu'en 86. Mm-hmm. Quand Cheikh Anta est mort, j'ai arrêté des activités politiques, mm-hmm. je pourrais dire. Je n'ai pas été très active mm-hmm. pendant ceux qui ont succédé à, mm-hmm. à Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. Major, bien de Major Fa, mm-hmm. et par la suite d'ailleurs, mm-hmm. le professeur Pape de Bono, Diallo Diop.
Alors,
pendant 5 ans, je me suis occupé de ma famille, mm-hmm. plutôt. Et là, c'est là où professeur Ibn Dertiam a créé son parti.
PSD Diamtoubi?
Non.
Pourquoi c'est PSD qui est venu?
Garabi.
Oui.
CDP.
CDP Garabi. Voilà. Pourquoi? Enfin, oui. Des fois la mémoire fonctionne assez bizarrement. Oui, donc CDP Garabi, désolé.
C'était la mode à l'époque de dire le nom. Oui. Et de rajouter un terme wolof oui. pour spécifier. Mm-hmm. Donc c'est CDP Garabi, oui. Convention des démocrates et des patriotes.
Mm-hmm. Hein, ouais, c'est pas patriote. Le nouveau terme. C'est pas un nouveau terme.
C'est pas un nouveau terme. Ouais, c'est des démocrates et des patriotes. Oui. CDP Garabi. Alors donc mm-hmm. là, Ibader a décidé de faire la nationale des femmes oui. de la CDP Garabi, mm-hmm. qui avait beaucoup de succès. Mm-hmm. Bayré d'Ibader est connu, hein, vraiment. Parce que simplement, lui aussi, il avait un rôle historique à jouer un peu partout, mm-hmm. en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que syndicaliste mm-hmm. et autres, et en tant que ministre d'ailleurs, mm-hmm. qui a fait des rénovations, qui a fait des ruptures et tout. Mm-hmm. Alors donc, j'étais la présidente nationale des femmes mm-hmm. de 93 jusqu'en 98. Mm-hmm. À partir de 98, il y a eu les rivalités féminines. Mm-hmm. C'est là où je me rends compte que les femmes ne s'entendent pas. Mm-hmm. Les femmes rivalisent. Pourquoi les femmes n'avancent pas? C'est parce qu'entre elles, elles se neutralisent. Quand il y en a une qui veut émerger, il y en a une autre pour l'empêcher d'émerger. C'est ça le problème des femmes.
Je vois ce que vous êtes en train de
dire. Oui, mais c'est ça le problème des femmes.
On appelle ça de la misogynie intériorisée. On leur a tellement mis une chape sur elles-mêmes oui. qu'elles-mêmes ont intériorisé cela et s'entretuent vraiment, entre guillemets,
voilà, les unes les autres. Voilà, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. Je vis ça jusqu'à présent. Mm-hmm. Même que vous avez lutté individuellement jusqu'à émerger, être mm-hmm. leader, première femme à parler de la présidence de la République, mm-hmm. mais j'arrive dans le milieu, on me dit non, on ne veut pas la parole. Non, mm-hmm. attention à elle. Mm-hmm. On essaie de vous effacer de la terre, quoi. Mm-hmm. Je ne comprends pas. Ouais, mais c'est fou, hein. Ouais. Vous avez appelé ça misogynie
intériorisée.
Intériorisée, ouais, voilà, exactement. C'est exactement ça.
Parce qu'elles ont un comportement misogyne envers des femmes comme elles, oui. et sauf que elles ne peuvent pas elles-mêmes être misogynes. Elles ont intériorisé cette misogynie qu'elles ont subie et elles répliquent.
Elles répliquent, voilà. Elles répliquent. Elles ne font pas attention maintenant qu'elles répliquent sur leur propre sort.
C'est exactement ça.
Voilà. C'est vrai. Voilà, donc là, mm-hmm. à partir de là, mm-hmm. il y a eu les hommes utilisent mm-hmm. les femmes mm-hmm. pour émerger. Mm-hmm. Donc, alors, à partir du 5, le 8 mars, j'allais dire, mais maintenant, les journaux ont sorti ça le 5 avril mm-hmm. 1998. Mm-hmm. Au moment où la CDP Garabi organisait un congrès d'investissement, mm-hmm. d'investiture mm-hmm. pour l'Assemblée nationale, pour les députés mm-hmm. de 98, alors moi, je suis allée. On a organisé ça en tant que président national des femmes. Nous avons tout fait pour bien organiser ça. Au moment où ça se passait à Thiès, j'ai décidé de ne pas aller mm-hmm. à ce congrès. Mm-hmm. Parce que je n'étais pas là pour me battre contre mes soeurs.
Oui,
ça ne m'intéresse pas. Et je suis allée m'installer mm-hmm. À Frédéric Hébert, mm-hmm. qui organisait quelque chose de parallèle, que par hasard, je suis là. Mm-hmm. Et c'est là qu'un journaliste est venu me dire, mais Marie, on ne comprend pas. Mm-hmm. Tu es président national de la CDP Garabi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ton parti. Ils organisent la journée d'investiture et tu n'es pas là. J'ai dit, bon, oui, parce qu'eux, ils investissent des députés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'objectif, c'est la présidence de la République. Mm-hmm. C'est parti comme ça.
Oui. Ils me disent, quoi?
Je dis, oui. Et mm-hmm. comment vous allez faire? Je vais créer mon parti. C'est parti comme ça.
Oui.
Et Dieu est là parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est un salon baquet. Mm-hmm. Barbu avait déjà pris la place de Khalifa, mm-hmm. le Khalifa. Mm-hmm. Mais il n'avait jamais parlé au public, jamais. Mm-hmm. Et c'est le jour où il avait décidé de parler. Mm-hmm. Donc, dans le journal Le Pop, qui à l'époque, on a une grande photo de Sonissa Lumbaké. Et en dessus, comme chapeau, on avait mon objectif, c'est la présidente de la République. Et moi, on m'a fait un petit Macron. Macron, au-dessous. Et c'est moi qui parlais. Donc, le journal est parti partout parce que les gens pensaient que c'est lui qui disait ça. mon objectif, c'est la présidence de la République. Sinon, c'était une publicité extraordinaire que je dois à Sonissa Lumbaké. Il n'y a pas de hasard. Alors, donc, ça a fait le tour du monde et tout le monde a en parlé. Et c'est comme ça que les gens m'ont appelé. Oui, ça m'intéresse. J'ai eu une liste de milliers de gens bon, entre le mars 98 et le jour de mon assemblée générale constitutive, il y a eu 18 mois. Je n'ai pas créé, vous voyez, quand j'ai été retournée. Vous avez dit juin. C'est janvier. C'est janvier 2000.
Exactement.
Alors, j'étais déjà candidate. Donc, tout le monde a dit candidature, la première candidature africaine de l'époque, d'une femme africaine. Et comme tout le monde disait, halpolar, noire, musulmane, Tariq Khatija, toutes choses qui font que les femmes ne doivent pas apparaître. Et voilà pourquoi cette femme-là. Donc, ça a fait le tour du monde. Je pèse bien mon nom. On m'a appelé de partout, BBC. Toutes les radios du monde m'ont appelé et tout le monde posait la même question. Qu'est-ce que ton peuple va dire? C'est sûr que tu auras des problèmes. Ils ont voulu que je sois. Ils ont pensé que j'étais détachée de tout ça, de cette culture musulmane, islamique. J'étais détachée de tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Total, ça a fait le tour du monde. Voilà. Entre-temps, j'ai été invitée à faire le cours, la formation de training sur le gender à Amsterdam et tout. J'ai fait ça, j'ai fait trois formations comme ça. Et par hasard, là aussi, j'ai eu sur un plateau d'argent presque mon programme. Parce que, tu sais, quand on commence les formations, on se tient par la main, on demande à chacun quel est ton comment dire, what is your hope?
Quel espoir, qu'est-ce que tu vas faire?
Et moi, j'ai dit, mon seul espoir, c'est devenir la présidente de la République du Sénégal. Et tout le monde a applaudi. Donc, tout le cours tournait autour. When Mariam became the president of the Sénégal, qu'est-ce qu'elle va faire pour la petite enfance? Qu'est-ce qu'elle va faire pour les vieux? Qu'est-ce qu'elle va faire pour tous les genres humains? À tous les genres humains. C'est pourquoi moi, cette notion de genre, je ne mettais pas du tout l'homosexualité là-dedans. Je voyais tous les genres humains. Mais c'est facile de faire glisser l'homosexualité, je dois dire. Mais en fait, nous, on avait appris comment être juste avec tous les hommes. Tous les êtres humains, normalement. C'est-à-dire la petite enfance, les vieux, le troisième âge, les handicapés, qui que ce soit. Il faudrait que dans la budget le processus de répartition des compétences qu'on tienne compte de tous les genres de façon équitable.
On est d'accord.
Voilà, c'est ça que j'ai appris. Et c'était ça mon programme. Je disais, mon programme s'inspire de l'approche genre qui veut que lutte contre toute forme de discrimination envers tous les genres.
Ben oui, voilà. c'est exactement ça. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez parlé de votre parcours politique qui vous a amené jusqu'à la création de votre propre parti, mais vous avez connu aussi la clandestinité. J'ai remarqué, toutes les personnes, en fait, même si c'est off the record, qui ont vécu cet épisode de la clandestinité, ont plus ou moins quelque chose en commun. Ils ne se livrent pas facilement. Ils ne partagent pas énormément de choses, on va dire, un petit peu partout. Est-ce qu'il y a des séquelles de clandestinité qu'on garde?
Non, mais je vais retourner ça. C'est la faute des journalistes.
Oui.
Ah, les journalistes s'intéressent au spectacle.
Oui.
Et nous ne sommes pas spectacle.
Oui.
C'est-à-dire notre formation ne nous permet pas, ne nous permet pas d'être spectaculaires. Nous sommes pour la réflexion, pour les débats et tout le temps. On me l'a reproché d'ailleurs quand j'ai fait la campagne électorale en 2000 pour les législatives.
Pour la coalition, oui.
Non,
pour personne. Bon, oui, personnellement, en 2001, 2002.
J'ai fait ma propre liste.
Je pensais que vous parliez de la coalition en 2000.
Non, pas 2000, c'est vrai, on reviendra dessus. Parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout.
Exactement.
Donc, les gens ont dit, mais Defsi Punk, Defsi Saga, Defsi. Ils pensent qu'un politicien doit être agressif, doit insulter, doit faire une... Ce n'est pas ma culture familiale, d'ailleurs. On nous interdit. Vous le savez très bien, mm-hmm. c'est la même chose que toi. Mm-hmm. On nous interdit. Déjà, on trouve qu'on était assez agressif de dire la vérité. Mm-hmm. Que la vérité, déjà, les gens trouvent que c'est agressif, mm-hmm. alors qu'on ne se mette pas à rouler les yeux ou à, mm-hmm. à insulter à autre chose. Mais les journalistes, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est grande gueule, non, voilà, heureusement, enfin, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui insulte, qui est très bagout, mm-hmm. donc on préfère donner la parole mm-hmm. au bagout. Mm-hmm. N'est-ce pas? Il y a ça, il y a aussi, comme vous dites, mm-hmm. qu'on n'est pas, on est la clandestinité forme. Ça a des conséquences sur nos personnalités, nos mm-hmm. façons de faire. Mm-hmm. On préfère, on ne faisait pas les choses pour se faire voir. Mm-hmm. On faisait des choses pour faire avancer le monde.
Il y a un impact.
C'est ça. C'est ça, hein? Jusqu'à présent, je peux avoir une belle idée, je l'exprime quelque part. Mm-hmm. Je vois quelqu'un en train de le mettre en chantier, mm-hmm. les gens me disent, mais c'est ton idée, je dis, c'est tant mieux. Moi, je l'avais émise pour que quelqu'un s'en approprie et avance. Mm-hmm. Je ne suis pas là, je ne suis pas dans les rivalités mm-hmm. entre, oui, tu as été primaire, tu as été deuxième. Les gens ont tenté entre moi et c'est du vrai, d'ailleurs, Amsato.
Amsato, c'est vrai.
Voilà, Amsato se fait passer pour la première femme. Je dis, mais arrêtez ça, oui. arrêtez ça. Mm-hmm. Elle est jusqu'au bout des élections. Elle, oui. elle c'est vraiment, pendant 2 ans, j'étais candidate mm-hmm. à la présidence. J'ai été. Et le 26 janvier...
Vous avez refusé de payer 6 millions.
Voilà. J'ai dit, je ne paye pas les 6 millions. Parce que ces élections vont être truquées, ouais. je le pensais. Ouais. Et voilà, donc, mais elle est allée aux urnes, elle mm-hmm. est allée, et mm-hmm. elle a été... Tu sais comment on fait? On fait tout pour tout. Mm-hmm. Je l'ai dit d'ailleurs quand mm-hmm. j'ai décidé le 26 janvier, je dis, mm-hmm. je ne veux pas qu'on fasse de mon expérience mm-hmm. ce qu'on a fait avec Charente. Mm-hmm. Parce que quand on a une expérience... peut changer le monde. Mm-hmm. Là, les forces obscures sont là pour le dévaloriser. Mm-hmm. Pour la dévaloriser. Mm-hmm. Pour faire des complots contre lui, pour faire des trucs comme ça. Mm-hmm. Ça ne rate pas. À tous les coups, les forces obscures sont là pour faire avorter mm-hmm. les grands projets. C'est comme ça que je l'avais dit. J'ai dit, Chirante, on a tout fait. Mm-hmm. Regardez, Chirante, ils allaient aux élections, après on dit qu'elle a zéro. Zéro, zéro, zéro partout. Même dans les bureaux de vote où on est zéro. Mm-hmm. Parce que simplement, il fallait décourager cette compétence qui, s'il arrive au pouvoir, va révolutionner non seulement l'Afrique, mais le monde. Mm-hmm. Moi aussi, ça remettait en question l'ordre établi des femmes qui doivent rester mm-hmm. Derrière les hommes, tout en politique. Mm-hmm. Derrière les hommes, à applaudir, mm-hmm. À être utilisés contre d'autres hommes ou d'autres femmes, etc. Mm-hmm. Voilà.
Après, quand je parle à tous ceux qui ont fait le mouvement de gauche au Sénégal, en tout cas ceux à qui j'ai pu parler, vous êtes tous, à très peu d'exceptions près, vous vous êtes tous retrouvés à un moment à soutenir un libéral en 2000. Comment on passe d'un maoïsme à soutien pour un libéral? Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, ce qui se passe, c'est que le maoïsme est ainsi fait. Mm-hmm. Le maoïsme, si vous étudiez l'histoire de Mao Tse-tung lui-même, mm-hmm. et de sa prise au pouvoir en 1949 mm-hmm. en Chine, c'est parti d'un large front uni anti-impérialiste. C'est comme
D'accord.
ça qu'ils ont appelé.
D'accord, et c'est comme ça que vous l'avez pour,
oui. Parce que le maoïsme est très scientifique, mm-hmm. c'est très scientifique, elle l'est d'ailleurs. Il dit pour chaque problème, mm-hmm. il faut décortiquer et mm-hmm. voir quel est le problème principal, mm-hmm. quels sont les autres secondaires. Mm-hmm. Ils disent contradiction principale, contradiction secondaire. Mm-hmm. Si la contradiction principale, c'est de faire de telle sorte que le Sénégal soit libre, mm-hmm. il faut aller chercher tous les gens qui veulent que le Sénégal soit libre, qu'ils soient noirs, rouges, méchants, bons, tu les prends. D'après le goût de commander. Tu prends tous ceux qui veulent que le Sénégal soit libre, tu les prends. Mm-hmm. Après, quand le Sénégal sera libre, on dira, ah, mm-hmm. ceux qui veulent que une oligarchie mm-hmm. politique ou familiale soit au pouvoir, on va les combattre. Mm-hmm. Et c'est là qu'on va combattre tous les gens qui veulent mm-hmm. pas donner cette liberté au reste du peuple. Mm-hmm. Et quand ça crescendo, mm-hmm. on élimine une à une toutes les contradictions. Donc c'est un fait maoïste hein, que de s'allier mm-hmm. avec d'autres gens, mais pour une étape, une mm-hmm. seule étape. Mm-hmm. L'étape suivante, ils se retournent contre ces mêmes gens d'ailleurs, les combattent, parce que c'est ce que Mao Tse-tung a fait contre Chiang Kai-shek.
Oui.
Une fois qu'ils ont libéré la Chine du Japon et mm-hmm. d'autres agressions, ils s'y retournent pour dire, maintenant, moi, ce n'était pas simplement pour libérer, c'est pour installer le socialisme et le communisme. Mm-hmm. Donc, toi qui es capitaliste, on a bouté d'or, on l'a mis, elle est allée s'installer à l'île, vous connaissez l'histoire. Mm-hmm. Donc, c'est l'âme du maoïsme, ça.
Alors, on arrive presque à la fin.
Oui.
Si vous deviez jeter un regard en arrière par rapport à tout votre vécu, considérez-vous aujourd'hui être à votre place?
Non.
Oui, non?
Non.
Oui.
Je devrais faire partie des gens qui décident dans ce pays.
Mm-hmm.
Parce que j'ai assez d'expérience, assez d'humilité, assez de... pour pouvoir participer.
Mm-hmm.
Mais au Sénégal, on participe quand on est derrière le parti au pouvoir.
Mm-hmm.
J'ai été conseillère,
mm-hmm.
vous avez dit à la primature.
À la primature.
Mm-hmm. J'étais conseillère de 2000 à 2007.
Mm-hmm.
2007, j'étais sénatrice.
Oui.
Et jusqu'à 2012.
Mm-hmm.
Et puis 2012, je suis retournée case de part.
Mm-hmm.
Donc, je ne suis pas impliquée dans la gestion de l'État. Heureusement mm-hmm. que, comme vous dites, je suis à l'OMP
mm-hmm.
et je suis à l'Institut panafricain de stratégie avec Tshisekedi Ngado pour mm-hmm. réfléchir sur les solutions africaines
mm-hmm.
qui feront avancer les choses.
Mm-hmm.
Bon, mais je ne suis pas à ma place,
mm-hmm.
je le sais. Il arrive qu'on organise de grandes choses pour les femmes leaders, je ne suis pas invitée.
Oui.
Vous comprenez?
Je
c'est pas normal ça. Et je ne suis même carrément pas invitée.
Oui, je comprends.
Pour te dire, non, je sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on a lutté soi-même sur ses propres forces jusqu'à émerger, les gens tentent de vous enterrer.
Hein. Mm-hmm.
Tu as l'impression qu'ils mm-hmm. tentent de vous enterrer. En tout cas, pour eux, tu ne comptes plus.
Mm-hmm.
On ne peut plus rien faire, tu as assez vu, comme si c'était comme ça.
Oui.
Alors que ce n'est pas ça.
Oui.
Je crois qu'il faudrait fédérer toutes les forces,
mm-hmm.
comme vous avez eu la chance de les contacter.
Oui.
Et vous avez vu
oui.
la puissance de ces femmes-là.
Elles sont
comment elles sont incroyables. Comment on va
vous
laisser
toutes.
Les choses se perdre comme ça.
Oui,
comment on peut laisser Marie-Angélique venir en marge jusqu'à présent.
Mm-hmm.
Anta Diouf, Koldoubop, Kazafat, Sodiane,
mm-hmm.
toutes les femmes, c'est ça. Que vous avez contacté aurait pu apporter beaucoup de choses. Contacter après, je ne sais pas si j'ai le droit de vous donner des noms.
Oui, bien
mais
sûr.
Mais Dior Falso.
Oui, que je veux avoir.
Extraordinaire, oui. Je viens de revenir.
Que je veux avoir, oui.
Incroyable, oui. D'une sagesse mm-hmm. et d'un courage extraordinaire. Mais regardez, qu'est-ce qu'on en fait
mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on met en avant? Quelle mm-hmm. sorte de femme on met en avant? Je ne veux pas les critiquer,
mm-hmm.
mais c'est des jeunes à qui les autres auraient pu apporter beaucoup de choses. Mais on les met de côté.
Je
ne suis pas à ma place.
Je vois parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Et la toute dernière question.
Mm-hmm.
Si vous aviez 20 ans
oui.
en 2022,
oui.
qu'auriez-vous aimé savoir faire? Tournez la question comme vous voulez. Si vous aviez 20 ans en 2022,
oui.
qu'auriez-vous aimé savoir?
Ce que j'aimerais savoir,
mm-hmm.
si j'avais 20 ans.
Que 20 ans là.
Tout
est encore possible. Tout.
Oui. Alors, si j'avais 20 ans, moi, je... tu vas te marrer. Parce que j'ai dit, j'ai pas d'âge.
Ouais.
Peut-être que j'ai 20 ans en ce moment.
D'accord, je suis d'accord. Mais l'islam a fait la même chose. L'islam a fait exactement la même chose. Quand je lui dis, si j'avais 20 ans en 2022, comment tu aimais ça? Il dit, J'ai 20 ans.
C'est tout.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Marie-Aurélie. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans Conversation Féminine. Merci beaucoup.
Vous écoutiez le podcast Conversation Féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis. Quant à moi, Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation. Perfumado.